Bienvenue à BetaFinch, votre analyse d'earnings générée par l'intelligence artificielle. Je suis Alex, et je suis accompagné de Jordan. Aujourd'hui, nous analysons les résultats du premier trimestre 2026 de Chevron Corporation. Avant de commencer, un message important, ce podcast est un contenu généré par intelligence artificielle à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Rien de ce que nous discutons ne doit être considéré comme un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier qualifié avant de prendre des décisions d'investissement. Parfait. Jordan, commençons par les chiffres clés. Que avons-nous vu dans ce rapport?
Excellente question, Alex. Chevron a enregistré des bénéfices ajustés de 2,8 milliards de dollars, soit 1,41 dollars par action. C'est un trimestre solide, bien que légèrement inférieur aux 440 millions de dollars de baisse par rapport au trimestre précédent. Mais voici ce qui est vraiment intéressant, le flux de trésorerie provenant des opérations s'élève à 7,1 milliards de dollars, ce qui démontre une génération de trésorerie robuste.
Et le flux de trésorerie libre?
4,1 milliards de dollars au trimestre. Mais je dois souligner quelque chose d'important, il y a eu 3 milliards de dollars d'effets d'ajustement temporel négatif au cours du trimestre. Cela s'explique par une montée en flèche des prix des matières premières en mars. Le portefeuille en aval a été touché, mais intéressant, le secteur amont a compensé par des réalisations plus élevées.
Parlons de cette question d'effet temporel. C'est un terme que certains auditeurs pourraient trouver déroutant. Peux-tu l'expliquer de manière simple?
Bien sûr. Imaginez que vous vendez du pétrole à un client en mars, mais vous n'avez pas physiquement livré le produit avant la fin du mois. Pendant ce temps, le prix du pétrole monte en flèche. Selon la comptabilité en vigueur, vous devez inscrire cette perte de valorisation. Chevron prévoit qu'environ 1 milliard de dollars de ces effets sur dérivés se dénoueront au deuxième trimestre. C'est un effet mécanique du marché volatile dans lequel nous vivons.
C'est logique. Maintenant, parlons de quelque chose qui m'a vraiment intéressé dans cet appel, l'intégration verticale. Michael Wirth et Aimé Arbonnet ont beaucoup parlé de la capacité de Chevron à optimiser ses flux entre le secteur amont et l'aval. C'est fascinant, n'est-ce pas?
Absolument. C'est vraiment le cœur battant de la performance du trimestre. Chevron traite maintenant plus de 40% de pétrole brut équitable dans ses raffineries asiatiques au deuxième trimestre, contre seulement 15% avant la fusion S. Aux États-Unis, c'est encore plus prononcé, plus de 50%, avec certaines raffineries dépassant largement ce chiffre.
Comment cela crée-t-il de la valeur?
Eh bien, lorsque les marges se déplacent dans la chaîne de valeur, tantôt dans l'amont, tantôt dans l'aval, Chevron peut désormais les saisir avec beaucoup plus de certitude. Si les marges de raffinage augmentent, ils peuvent diriger plus de pétrole brut équitable vers leur raffinerie. Si les prix du pétrole brut augmentent, ils bénéficient de la production en amont. C'est une flexibilité opérationnelle considérable, et Michael l'a bien articulé.
Et en Asie, où les marges de raffinage sont actuellement élevées?
Exactement. Chevron peut exploiter cette situation. Ils ont versé du pétrole brut CPC Blend, Mars et même du WTI à leur raffinerie GS Caltex en Corée du Sud. C'est une diversification cruciale à une époque où l'accès au pétrole brut est difficile et limité.
Voyons maintenant quelque chose qui a dominé l'appel, la situation géopolitique. Un analyste a demandé à Michael comment il pensait à ce conflit au Moyen-Orient après 40 ans dans l'industrie. Quelle a été sa réaction?
Michael a été prudent mais réaliste. Il a dit qu'il s'agissait clairement d'une perturbation très importante du système énergétique mondial, mais qu'il était trop tôt pour tirer des conclusions fermes. Il a mentionné que Chevron n'a moins de 5% de son portefeuille au Moyen-Orient, donc l'exposition directe est limitée.
Ce qui est remarquable.
Absolument. Et malgré cette perturbation, la direction a maintenu une approche cohérente. Aucun changement dans les plans de dépenses d'immobilisation. Aucun changement dans les orientations de production. Ils projettent toujours une croissance de production de 7 à 10% pour l'année. C'est la discipline dont Emear a parlé, ne pas être contre-cyclique.
Parlons du Venezuela. C'est un sujet intéressant parce que Chevron a été très prudent ici pendant longtemps. Que avons-nous appris?
Chevron continue à recycler les flux de trésorerie pour rembourser les arriérés. Michael a cité un montant de 1,5 milliard de dollars à la fin de l'année dernière. Cependant, et c'est important, il rembourse plus rapidement cette année en raison des prix du pétrole plus élevés. Il s'attend à ce que le solde soit entièrement remboursé en 2027.
Et après ? Une augmentation des dépenses en capital au Venezuela ?
Peut-être, mais pas maintenant. Michael a été très clair, il y a des questions non résolues concernant les conditions fiscales, les termes des contrats, et les mécanismes de résolution des différends. Une fois ces questions clarifiées, probablement en 2027, Chevron pourrait envisager des investissements supplémentaires. C'est une approche patiente et disciplinée, et honnêtement, elle a du sens face à une situation complexe.
Qu'en est-il du projet d'énergie avec Microsoft ? C'est un domaine totalement nouveau pour une compagnie pétrolière.
Michael a fourni une excellente mise à jour. Chevron est en discussions exclusives avec Microsoft pour un projet dans l'ouest du Texas. Ils ont déjà soumis un permis d'air, sécurisé les grandes turbines, et sélectionné un entrepreneur EPC pour les travaux d'ingénierie.
Et le calendrier ?
Ils prennent livraison de turbines cette année, avec une décision finale d'investissement visée plus tard en 2026. Michael a noté que les négociations semblent positives, il trouve un équilibre entre les attentes de prix de l'électricité de Microsoft et les attentes de rendement sur investissement de Chevron. C'est un territoire vraiment nouveau pour l'industrie pétrolière.
Passons à la guidance. Chevron a maintenu tous ses objectifs pour 2026 ?
Oui, absolument. Les dépenses d'immobilisation de 18 à 19 milliards de dollars, la croissance de production de 7 à 10%, et les rachats d'actions de 2,5 à 3 milliards de dollars par trimestre. Ce qui est frappant, c'est que malgré des conditions de marché radicalement différentes de celles prévues à la fin de 2025, la direction n'a pas modifié ses plans.
C'est une affirmation solide sur la confiance dans le portefeuille.
Précisément. Et souvenez-vous, leurs objectifs de 2030, annoncés en novembre, incluent une croissance de plus de 10% du flux de trésorerie libre ajusté et du bénéfice par action, tout cela à $70 le Brent. Michael et Emea ont tous deux souligné que ce ne sont pas des objectifs aspirationnels. Ce sont des objectifs ancrés dans des actifs en fonctionnement aujourd'hui.
Parlons des dividendes de sociétés affiliées. Il y a eu une augmentation surprise ici.
Oui. Emea a augmenté les estimations de distribution des sociétés affiliées pour 2026 de plus de 2 milliards de dollars au-dessus des estimations précédentes. Cela reflète une forte performance au point de production clé, TCO revenant à pleine capacité et au-delà, CPChem bénéficiant de marges renforcées pour les oléfines, et les installations de GNL en Afrique de l'Ouest fonctionnant à pleine capacité.
Comment cela se traduit-il pour les investisseurs ?
C'est un générateur de trésorerie prévisible. TCO paie désormais mensuellement au lieu de trimestriellement, donc Chevron reçoit déjà ses dividendes plus rapidement. Pour les actionnaires, c'est une croissance des flux de trésorerie qui soutient le programme d'augmentation des dividendes de Chevron, qui se poursuit depuis 39 ans consécutifs.
Intéressant. Qu'en est-il des réductions de coûts structurels dont Emear a parlé ?
Chevron vise un objectif de réduction des coûts de 3 à 4 milliards de dollars d'ici la fin de 2026. Emear a confirmé qu'ils sont en bonne voie pour y parvenir. Cela inclurait l'intégration des actifs S, l'optimisation organisationnelle et une meilleure efficacité du capital. Ces réductions soutiennent également les objectifs de 2030.
Avant de conclure, parlons du marché du gaz naturel liquéfié. Michael a donné quelques détails intéressants ici.
Oui. Chevron a un portefeuille de GNL d'environ 16 millions de tonnes par an, principalement en provenance de l'Australie. Environ 80% de ce volume est lié à des contrats à long terme indexés sur le pétrole, et 20% est exposé au marché au comptant. Il a également mentionné qu'ils ont vendu leur première cargaison de GNL basée aux États-Unis, dirigée vers l'Europe au prix au comptant.
Et la croissance future ?
D'ici 2030, ce portefeuille devrait croître d'environ 4 millions de tonnes par an supplémentaires, portant le total à 20 millions de tonnes par an. C'est une histoire de croissance solide dans un contexte d'une demande accrue de gaz naturel en Asie et compte tenu des tensions géopolitiques actuelles.
Pensons à ce que tout cela signifie pour les investisseurs. Jordan, quels sont les points clés à retenir ?
Premièrement, Chevron démontre une discipline remarquable face aux perturbations de marché. Il ne gonfle pas les dépenses d'immobilisation simplement parce que les prix augmentent. Deuxièmement, la synergie d'intégration amont-aval est réelle et tangible. Troisièmement, Le portefeuille est intrinsèquement diversifié sur le plan géographique et au niveau de la chaîne de valeur, ce qui offre une résilience.
Et à court terme?
À court terme, vous avez une génération de trésorerie plus forte en raison des prix élevés, soutenus par une production croissante de TCO et des marges de raffinage stables. À long terme, vous avez des objectifs de croissance du flux de trésorerie libre et du BPA de plus de 10% d'ici 2030, qui sont ancrés dans des actifs réels et non dans des espoirs.
C'est un argument convaincant. Avant de conclure, Jordan, tu as un dernier commentaire?
Oui. Ce qui m'a vraiment frappé lors de cet appel, c'est la cohérence. Lorsque le monde est turbulent, une direction qui ne change pas de cap sans raison est généralement une bonne chose. Chevron ne dit pas « tout a changé », ils disent « notre approche tient bon, notre portefeuille est résili, et nous continuerons à générer des rendements prévisibles ».
Excellente analyse. Avant de nous quitter, je dois inclure notre avertissement final.
Tout à fait. Tout ce qui a été discuté est une analyse générée par IA à des fins éducatives. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Veuillez faire votre propre diligence raisonnable et consulter les documents de Chevron auprès de la SEC avant de prendre toute décision d'investissement.
Merci d'avoir écouté Beta Finch. Je suis Alex, et avec Jordan, nous vous remercions de votre attention. Consultez notre site pour plus d'analyses de gains. À bientôt.
Restez curieux, restez disciplinés, et heureux d'investir.
C'est tout pour l'analyse d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé cela utile, envisagez de soutenir Beta Finch sur Patreon. Votre soutien nous aide à améliorer nos voix et couvrir plus d'entreprises. Visitez patreon.com/betafinch pour en savoir plus. Merci de votre écoute.